magazine Faminade, VOA Afrique.
Salimata Traoré, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous.
Tout le plaisir est pour moi.
Vous êtes venue nous rendre visite à la Voix de l'Amérique, à Washington.
Oui.
Vous êtes malienne.
Je suis malienne, oui.
Malienne, couturière.
Oui. Une ancienne de la diaspora, je suis rentrée. Mm-hmm. Maintenant, je fais mon petit business au Mali.
Alors, vous étiez aux États-Unis il y a quelques années auparavant.
Oui.
Et vous avez décidé de retourner à Bamako,
À Bamako, oui, c'est exact.
Vous êtes une ancienne vétérinaire.
Oui, je suis sortante de l'IPR de Katibougou.
Et donc, à votre retour à Bamako, finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, mon retour à Bamako, vous savez, maintenant en Afrique, c'est pas facile. Mm-hmm. Avec le manque de travail, c'est pas facile. Donc, je suis de vétérinaire, je me suis retrouvée en couturière. Donc, maintenant, je me débrouille avec ça, ça va.
Et donc, au départ, c'était pour subvenir à vos besoins, en fait?
Bon, comme le couture a toujours été...
Une passion?
Une passion pour moi, donc...
Vous faisiez déjà beaucoup de couture auparavant.
Je le faisais déjà, donc je me suis lancée dedans.
Vous habillez la famille, vous habillez vos enfants.
J'habille mes enfants, j'habille pas mal de gens, j'ai des clients partout, un peu partout en Afrique, puis même ici.
Vraiment?
Oui.
Dans plusieurs pays d'Afrique?
Dans plusieurs pays d'Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso.
Mais alors ça marche très bien.
Oui, ça marche un peu. Ça marche un peu, avec la grâce de Dieu.
Vous avez commencé il y a combien de temps?
J'ai commencé en 2006. J'emploie 5 personnes, 4 ouvriers et une secrétaire, et plus moi-même. Mm-hmm. Comme moi-même, je suis ouvrière.
Comment s'appelle l'entreprise de couture?
L'entreprise de couture s'appelle Badiara Couture. Badiara Couture, ça a pris le nom de mon papa, défunt papa.
Vous faites un style particulier de couture
pas
ou
style,
c'est traditionnel?
Pas
c'est...
un style particulier de couture. Je fais les coutures traditionnelles. Mm-hmm. Puis je fais même les robes de soir.
Ouais.
Je fais tout, un peu de tout. Hommes, femmes, enfants, tout. J'ai mon petit boutique à côté. Au début, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que j'emporte mes affaires de pays en pays. Donc, ça n'a pas été facile moi-même. Ouais. Ça n'a pas été facile. Bon, après, il y a eu des bouches à l'oreille. Donc, c'est comme ça, c'est parti.
Et maintenant, ça marche bien?
Maintenant, ça va.
Et vous avez une façade sur Internet où on peut vous consulter ou c'est en projet?
C'est un projet.
Il faut passer par là, n'est-ce pas?
D'accord.
Ça paraît même presque indispensable.
Okay.
Mais vous ne faites pas que ça. Vous faites autre chose également. Vous avez une autre activité.
Je fais d'autres choses. Je fais la transformation des produits agricoles aussi.
Formidable.
Oui.
Et c'est tout naturel chez vous, c'est ça?
Oui.
Pas de produits chimiques?
Non, pas de produits chimiques. C'est
tout bio. Hein?
Donc, je les cultive moi-même, je les transforme moi-même. Il n'y a pas de produits chimiques. Mm-hmm. Je fais les haricots et je fais le soja.
Et vous les transformez sous quelle forme alors?
En poudre.
Et là, vous travaillez avec qui?
Là, je travaille avec mes enfants. J'ai 2 filles, je travaille avec elles et puis plus 2 nièces.
Et elles ont quel âge?
La plus grande a 12 ans.
Et ça leur plaît?
Oui, vraiment.
En dehors de l'école, c'est ça?
En dehors de l'école, c'est ça, le week-end. Elles ne sortent pratiquement pas, on est là, on est tout le temps occupés.
Et vous vendez sur le marché ou comment vous procédez?
Ça, je vends à Bamako, surtout avec les supermarchés.
Donc vous allez voir directement les supermarchés?
Les supermarchés, oui.
Et là, c'est pareil, vous avez commencé quand?
J'ai commencé il n'y a pas assez longtemps.
Oui? C'est assez nouveau?
Oui, ça c'est nouveau.
Et ça a l'air de bien marcher aussi?
Oui, ça va. On a commencé avec quelques kilos, 2-3 kilos. Mm-hmm. On est allé à 10 kilos, 20 kilos. Maintenant, on peut aller jusqu'à 50 kilos par mois. Donc, je peux dire que ça marche.
C'est énorme, oui, c'est beaucoup. Mais vous travaillez sans relâche alors?
Ah oui, c'est ça.
C'est le travail, tout
travail,
le temps,
le travail. Le travail, c'est ça.
Comment vous arrivez à concilier les deux, la couture et puis l'agriculture, la transformation?
L'atelier, il y a une secrétaire là-bas. Même si je ne suis pas là, c'est elle qui gère. Mmh. Donc elle me fait les comptes rendus. Mais la culture, je suis dedans.
Mais quel type de matériel vous avez?
Je n'ai pas assez de matériel, hein.
Oui.
Il faut le dire. Je le fais avec nos matériels traditionnels. Là. Parce que pour transformer les haricots en poudre, je n'aime pas utiliser les machines. Là. Mmh. Les machines, c'est pas...
Donc, j'ai, c'est pas aussi bien,
voilà, c'est pas aussi bon.
Ouais.
Donc, j'ai nos mortiers. Les pilons, j'ai des filles qui se chargent de ça.
Mais c'est des heures et des heures de travail,
oui,
ça. Vous n'arrêtez pas.
Oui, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Mais je préfère ça. Parce qu'avec les machines, les produits, non, je n'aime pas
vous
ça.
Vous n'en voulez pas. Même si vous parveniez à agrandir l'entreprise, ça ne vous intéresserait toujours pas.
L'entreprise, si je parviens à agrandir l'entreprise, je ferai de sorte à améliorer un peu le même système que j'ai.
Ah.
Je préfère ça que d'aller vers les trucs artisanaux.
C'est vraiment bien. Vous allez l'améliorer de façon à ce que ce soit peut-être plus rapide, plus facile.
Un peu plus rapide.
Il y a des trouvailles à faire, là. Oui. Donc, vous étudiez ça, en fait.
Oui, je suis en train de voir. Oui.
Et est-ce que le gouvernement vous aide?
Non,
pas du tout.
Pas du tout. Quand tu n'as personne pour t'épauler, donc...
Oui. C'est difficile.
Ces aides-là, tu n'auras pas. Donc,
on compte que sur soi-même.
On compte que sur soi-même. Donc.
Et est-ce que vous avez un bon soutien dans votre entourage, vos amis?
J'ai le soutien. J'ai ma famille qui me soutient beaucoup.
Ouais, ouais.
J'ai ma famille, mes sœurs, mes frères, et ils me soutiennent beaucoup.
Et ça vous plaît plus que d'être vétérinaire, finalement, ce type de vie? Parce que vous êtes peut-être plus indépendante, non, que si vous étiez vétérinaire, non?
Oh, oui, je dirais oui.
Et les projets alors? Parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière qui vient encore. Hein, il y a des projets, bien sûr. Ouais.
Oui, il y a des projets parce que je m'aimerais vraiment me lancer dans la production de petits ruminants. Donc, j'ai déjà commencé avec les petits ruminants, notamment les chèvres.
C'est pour le lait, c'est pour le fromage?
Bon, il y en a pour le lait, mais ça, je n'ai pas encore commencé. Je le fais pour la viande.
Et vous avez donc déjà un certain nombre de têtes?
J'en ai une vingtaine.
Vous avez une ferme alors maintenant, c'est ça? Vous avez une ferme?
Non. Tout ça, je le fais à la maison.
Mais il y a de la place à la maison, j'imagine, pour les chèvres.
Oui,
il y a des cours.
Le cours est assez grand.
D'accord.
Mais il faut que j'aie une ferme pour ça.
Vous cherchez une ferme?
Je cherche une ferme. Je l'ai déjà commencé, mais... j'ai eu à acheter deux parcelles, mais malheureusement, en Afrique, ce n'est pas facile. C'était pour d'autres personnes, donc j'étais obligée de céder.
Ah bon?
Mais jusqu'à présent, je continue à chercher.
Vous cherchez?
Mais avant ça, je me débrouille à la maison.
Mais vous êtes très indépendante parce que visiblement, vous ne cherchez pas d'aide vraiment encore une fois, je reviens là-dessus.
Parce que je ne cherche pas, mais je n'arrive pas à en trouver.
Ah bon?
Donc, je ne peux pas m'asseoir comme ça, croiser les bras, attendre de l'aide.
Bien sûr, oui.
S'il n'y a pas d'aide, il faut que je m'aide moi-même. Donc, je suis obligée de faire avec le peu de moyens que j'ai.
On a tendance à penser, même à travers ce que l'on sait, hein, que le gouvernement malien a plusieurs projets pour les femmes entrepreneuses, etc. Donc,
oui,
non.
Oui, bon.
Vous n'en connaissez pas trop la couleur, visiblement.
Je n'en connais pas vraiment, pas trop. J'ai essayé de rencontrer le ministre de l'élevage, à l'époque, qui était M. Treta. Je n'ai pas eu la chance de la rencontrer.
Et c'est vous qui prenez en charge la famille, ou c'est votre mari et vous, ou vous êtes seule à la prendre en charge?
Je suis la seule, malheureusement, je me suis...
Vous êtes chef de famille?
Oui.
Vous êtes chef de famille, donc effectivement, vous... devez prendre en charge vos deux filles, c'est ça?
Oui, oui.
Et c'est pour ça que ce n'est pas facile non plus.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre cas à Bamako?
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas.
Oui, vous en connaissez d'autres comme vous?
J'en connais d'autres comme moi, mais on n'est pas dans le même milieu. Sinon, j'en connais plein d'autres comme moi. Il y a d'autres qui sont fonctionnaires, il y a d'autres qui sont commerçantes, il y en a plein. Il y en a plein d'autres.
Oui.
Moi, dans mon cas, il y a la famille qui me soutient beaucoup. Mais peut-être dans les autres cas, je n'en sais pas trop. Oui.
Et vos filles, elles vont continuer de travailler avec vous?
Je ne vais pas les forcer à travailler avec moi. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elles étudient. C'est elles qui vont choisir.
Oui. Vous avez un petit message pour les femmes africaines, les femmes qui, comme vous, ont un petit peu la vie dure, essayent de s'en sortir, justement, de parvenir à vraiment assumer les besoins de toute la famille?
Bon, le message que j'ai pour mes autres sœurs, c'est de croire en elles-mêmes. Si tu crois en toi-même, en ce que tu fais, tu pourras t'en sortir.
Et vous n'êtes pas inquiète, finalement?
Ça va. Ça va.
Merci beaucoup, Salimata Traoré.
Merci beaucoup.
Au revoir.
OK, au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez bien le magazine au féminin de VOA Afrique avec Nathalie Barge. suite au décès au Liban d'une jeune femme de ménage togolaise. Notre correspondante à Lomé a enquêté sur le phénomène des femmes qui partent travailler dans les pays du Golfe. Nombre d'entre elles sont victimes d'esclavage contemporain. Kayou Lawson en a rencontré une.
J'étais au Liban, mais c'est pas facile quand même.
Non, faut pas pleurer.
J'ai fait Liban-Koweït, mais le Koweït, c'est plus dur que tout. C'est le travail, esclavage.
Cette jeune dame que nous allons appeler Halima est une Togolaise de 27 ans. Elle est rentrée du Koweït il y a 5 mois. À la recherche d'un mieux-être, Halima a pris la décision d'aller dans les pays du Golfe où elle a eu à exercer comme femme de ménage pendant près de 4 ans, d'abord au Liban, puis au Koweït. Pour un salaire moyen de 100 000 francs CFA, Halima travaille entre 15h et 20h par jour. Des conditions de travail exécrables, doublées de maltraitance et de menaces d'emprisonnement. Témoignage.
Quand j'étais au Liban, je me lève à 6 ou 7 heures, à minuit, comme ça, je dors. Mais quand j'étais au Koweït, des fois, je dors à 4 heures du matin. Au Koweït, j'ai fait 3 mois sans prendre mon salaire. Maintenant, je réclame mon salaire et mes patrons allaient menti à la police que j'ai frappé leur enfant. Et les policiers sont venus à la maison pour m'arrêter. Ils m'ont frappé, m'ont amené à la police et ils m'ont fermé en même temps. Ils m'ont rien payé. Maintenant, ils m'ont pris pour aller vendre à une autre dame encore. Là, ces enfants veulent me violer. Quand je dois rentrer dans la chambre pour venir coucher avec moi.
Halima a eu de la chance pour revenir au Togo, estime le comité de réflexion et d'action pour la promotion des droits de l'homme, CRAF. Selon Dossé Soré, président du CRAF, les Togolaises sont devenues des esclaves dans des pays du Golfe où elles travaillent pendant des années sans salaire.
C'est l'esclavage moderne. Le cas qui se passe habituellement, c'est que lorsque vous signez un contrat de 2 ans ou 3 ans avec votre patronne, le contrat stipule qu'à la fin, on rassemble tous les salaires pour vous payer. Mais à l'approche de l'échéance, 5 mois ou 3 mois par exemple, on vous accuse de vol et on vous amène à la police pour vous arrêter juste pour se soustraire de l'obligation qui la contraint à pouvoir vous payer le cumul de salaire.
Le 17 octobre dernier, la jeune Togolaise Amélie Sizing est décédée au Liban. Une mort dont les parents ignorent la cause. Ayaba Sizing est le grand frère de feu Amélie Sizing.
Parlant de la mort de la sœur Amélie, la famille Tizing ne connaît pas l'origine de sa mort, mais elle le connaît quand même avoir reçu des appels de leur fille qu'elle a été menacée par son patron pour la simple raison qu'elle réclamait son droit. Le contrat qu'ils avaient signé était déjà épuisé et qu'elle devait entrer en possession de ses droits. Donc c'était au cours de la réclamation de ses droits-là que les menaces ont commencé, où elle a pu quand même s'échapper. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital par la Croix-Rouge qui devait la soigner. Et un jour, la famille a reçu un appel de la part d'un blanc qui leur disait que leur fille était en traitement et quand tout ira bien, on l'enverra au pays. Malheureusement pour nous, un jour, on apprend que c'est comme ça, notre sœur ne vit plus.
Pour le mouvement Martin Luther King qui a fait de ce sujet une de ses priorités, c'est une mort de trop. Pasteur Edo Kwame, président de ce mouvement surnommé « La Voix des Sans-Voix », interpelle les députés et toute la population togolaise.
Le mouvement Martin Luther King a demandé aux parlementaires togolais d'interpeller le ministre des Affaires étrangères pour que ce dernier puisse situer l'opinion sur le sujet. De ce ministre, nous attendons d'abord une mission diplomatique dans la zone pour recenser les Togolaises qui sont dans ces situations-là et puis procéder à un rapatriement volontaire, je dis volontaire, pour tous celles-là qui désirent rentrer. Aussi, nous avons demandé à ce que les produits libanais soient boycottés au Togo. L'un des sentiments anti-libanais, l'un des sentiments xénophobes.
Halima décourage d'autres Togolaises qui veulent tenter leur chance au Moyen-Orient.
Si tu cherches le travail, ça de la vie va dire non. Je connais une dame qui ramène les filles au pays. Il faut tenter voir. C'est ça. Quand tu vas aller, elle va te mentir que là-bas c'est au paradis, là-bas c'est mieux, là-bas quoi. Ils ne vont jamais te dire que bon, voilà ce qui se passe. Et aussi c'est leur profit. Quand ils t'amènent, c'est comme s'ils te vendent. Eux aussi ils vont gagner pour eux. Je suis à Lomé, ce n'est pas facile à Lomé aussi, mais c'est du courage. Lomé c'est mieux que ailleurs.
Au vu des tournures dramatiques que prennent les événements ces derniers mois, L'OME recommande une grande prudence aux candidates à l'immigration professionnelle dans les pays du Golfe. Pour rappel, depuis plus de 2 ans, le gouvernement togolais a interdit le voyage des jeunes filles au départ de l'aéroport de Lomé vers le Moyen-Orient pour des travaux domestiques. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Entre parenthèses.
La jeunesse africaine ne manque jamais une bonne occasion de servir la paix, comme les jeunes congolais de Bukavu qui organisent des peace camping avec des jeunes rwandais et burundais, histoire de dire non à toute forme de violence politique. Ernest Mouero a rencontré cette belle jeunesse pacifique et pacifiste.
Ce camp organisé du 9 au 11 décembre par la commission diocésaine de justice et paix de Bukavu avait pour objectif de rapprocher ces jeunes universitaires en vue de favoriser leur implication dans la consolidation de la paix et faire d'eux les relais des messages et actions de paix et cohabitation pacifique dans leurs communautés respectives. Pour Théodore Bahimba, point focal du programme Peace Building au sein de la CDJP, face aux problèmes de gouvernance, d'organisation d'élections crédibles et de chômage des jeunes, il est primordial que les universitaires deviennent des acteurs dans la recherche des solutions.
Nous avons organisé ces peace camping pour essayer de rapprocher les jeunes de la sous-région de Grand Lac, mais aussi pour qu'ils essaient un peu de discuter sur certains défis, notamment le chômage. Comment est-ce qu'ils peuvent, malgré le chômage, entretenir quand même certaines activités, ces activités génératrices de revenus qui les pousseraient de ne pas être trop orientés dans la manipulation politique.
Au site du camping à Bandari en commune de Kadutu, les jeunes ont échangé sur les forces et opportunités de leur unité en tant que jeunesse de Grand Lac. Ceci en invitant les décideurs du Rwanda, du Burundi et de la RDC à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes comme alternative au chômage qui expose des milliers de jeunes à la manipulation. Johanna Kachemwa, une étudiante en relations internationales de Bukavu, parle de la valeur ajoutée de ces assises.
La valeur ajoutée, c'est nous amener à dire non à la manipulation politique parce que l'information déjà qu'on a ici, la formation aussi peut nous amener et à nous mettre à l'écart de la manipulation parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas venir me dire d'aller à la route juste comme ça. Il faudrait que tu me convainques. Alors nous jeunes, on a fait de notre part, on a créé un pont pour nous unir. Et on aimerait que nos autorités, qu'elles aussi s'asseyent et qu'ils comprennent que l'avenir de ces chers et beaux grands lacs dépend de l'entente qu'il y aura entre les 3 pays.
Jeanne d'Arc Niramwira, étudiante en provenance de Tchangougou au Rwanda, salue l'hospitalité congolaise.
Pareil, les activités, c'est très important. On nous a bien accueillis. On a fait le salon. Chez nous, on l'appelle le Muganda. Un point positif parce que ça assure la cohésion. Ça diminue aussi les stéréotypes et les préjugés entre les jeunes de la région des Grands Lacs. Lorsqu'on est unis avec le même objectif, on peut résoudre tout problème. Il faut que chacun donne sa part.
En plus des échanges d'expériences, les jeunes ont installé quelques poubelles publiques à Bukavu et mis sous terre des plantules d'arbres pour manifester leur engagement pour la protection de l'environnement. Par la même occasion, ces jeunes ont transmis leur volonté de vivre dans un grand lac pacifié à travers une colombe de paix remise au maire de la ville de Bukavu, Filemo Yogolelo, président de la plateforme des autorités locales de la sous-région des Grand Lac. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
On passe du sud au nord Kivu, dans l'est de la RDC, où la population se lance dans la protection du parc de Virunga. Des femmes fabriquent des braseros écologiques pour le chauffage et la cuisine dans les ménages. Charlie Kazereka à Goma s'est entretenu avec cette communauté soutenue par le Fonds mondial pour la nature.
L'objectif pour ces planteurs, c'est d'éloigner loin des espaces protégés comme les parcs et les consommateurs. Question de conserver sa flore, aujourd'hui menacée par des milices armées et les braconniers. Pour cet espace de 5 hectares, environ 6000 arbres pour cette période culturelle, M. Michel Otemwami gère la coopérative des planteurs d'arbres.
Nous sommes à plus de 700 planteurs. Nous faisons la coupe qui est rationnelle. Parce qu'il y a un principe qui parle de quoi? Celui qui déboise, reboise. Mais le nombre qui partait au parc en 2012, ce n'est pas le même nombre qui existe aujourd'hui, qui exploite le parc. Parce qu'actuellement, ce sont les groupes armés étrangers qui exploitent les parcs, les FDLR.
Avant de quitter la cité, M. Michel tient à nous montrer les produits finis de leurs champs, les charbons de bois appelés communément makala, une substance utilisée dans les ménages pour la cuisson. Ici, un petit marché vient d'être ouvert pour écouler ces charbons de bois produits légalement et avec la politique de la conservation de la nature par les reboisements après déboisement.
Donc ici, c'est le marché local des sacs de makala. Donc ce sont des femmes détaillantes qui viennent prendre nos makala pour faire des tailles pour détailler la population locale ici à l'énergie. Un sac ici, c'est pour 16 dollars.
La ville de Goma consomme à elle seule plus de 150 000 tonnes de charbons de bois chaque année, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la conservation de la nature, WWF, et plus de 90% de ces produits provenaient du parc de Virunga, où les milices et les braconniers l'exploitaient clandestinement. Thierry Lusenge, chargé des programmes énergie durable à WWF pour l'Est de la RDC, explique ici les défis mais aussi les réussites pour leurs projets d'accompagnement.
Pour satisfaire les besoins en combustible, charbon de bois, bois de chauffe, il faut arriver à reboiser plus de 40 000 hectares. Et là, nous ne sommes qu'à 10 000 hectares. Ça, c'est seulement augmenter l'offre. Mais nous agissons aussi sur la demande. On est en train de promouvoir des foyers améliorés pour réduire la consommation de charbon de moitié.
Parallèlement à cette politique de reboisement, les artisans locaux, particulièrement les femmes, s'emploient dans la fabrication des foyers améliorés, des braseros qui diminuent de moitié la consommation des charbons de bois dans des ménages. Dans cette unité de production que nous avons visitée, une cinquantaine de femmes fabriquent depuis 10 ans ces braseros. Yoari, la trentaine, mère de 3 enfants, est l'une d'elles.
On a contribué à la conservation nature.
Aujourd'hui, les ONG et la population locale pensent avoir tracé le chemin pour lutter contre la coupe illégale d'arbres dans les parcs de Virunga. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Nous terminerons LMF par un hommage aux personnes âgées en Afrique qui parviennent à atteindre le grand âge malgré une vie difficile et le manque d'accès aux soins de santé. Notre correspondant à Yaoundé a donné la parole à une dame centenaire qui a souhaité partager son expérience. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka.
La centenaire Jacqueline Ada, affectueusement appelée Mama, confie en langue Ewondo aux personnes rassemblées à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé que le Sénat l'a toujours protégée, car elle est née il y a plus d'un siècle. Elle va plus loin en disant que ses parents n'ont pas enregistré sa naissance, mais reconnaît avoir plus de 100 ans. Ses souvenirs remontent entre 1914 et 1922, lorsqu'en discutant avec les missionnaires catholiques suite à la demande en mariage de son défunt époux, il lui est conseillé que le pape Benoît XV demande aux chrétiens d'être baptisés avant le mariage. Maman a eu la chance de vivre jusqu'à cet âge. Les personnes âgées au Cameroun n'ont pas accès aux soins, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par l'assurance. Minjama, 73 ans, explique que la plupart d'entre eux ne perçoivent pas leur pension aussitôt qu'ils sont retraités.
L'autre jour, j'étais à un hôpital, on m'a demandé qui s'occupe de moi. Là, je dis que je n'ai personne. Je n'ai pas d'assurance maladie. Dans les familles, la personne âgée est considérée comme une personne à négliger, qui ne sert plus à rien. Dès que vous êtes déjà vieux, on dit que vous êtes un sorcier.
La majorité des personnes âgées sont abandonnées à eux-mêmes et à leur famille. Albert Fouda s'occupe de sa mère âgée de 80 ans.
La situation de maman est très difficile. On a essayé de trouver les moyens pour essayer de trouver la solution. Nous sommes allés à l'hôpital général où le médecin a fait le scanner. Il nous a fait comprendre qu'il fallait une somme de 1 million pour l'opération. Maintenant, pendant que nous sommes 1 million, la tumeur s'est infectée. À la maison, la situation est très difficile parce qu'il faut subvenir aux petits besoins. L'infection qu'elle ne peut guérir que si on opère la joue.
D'après Bibéhe Pierre, un responsable du ministère des Affaires sociales qui s'occupe des personnes âgées, le gouvernement camerounais va mettre sous pied des lois sur la protection des personnes âgées. La division de la population des Nations Unies estime que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de la soixantaine va passer à 2 milliards. et 80% d'entre eux vivront dans les pays en voie de développement. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Arrête!
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your hair.
Marabai la fanuni beko la. Kila samarabe sire. Ali la koliji kalayani febi. Mon amour chéri. Tenembala na ya legele. Don't know.
Yeah.